Les Cascodeurs Podcast, épisode 206. Les petits secrets du boss. Enregistré le 8 mars 2019.
Bonjour et bienvenue sur l'épisode des Cascodeurs numéro 206. Aujourd'hui, un épisode spécial news avec Antonio, moi. Bonjour Antonio. Oh, bonjour Antonio. Audrey.
bonjour Antonio.
Et Vincent.
Bonjour Antonio. Bonjour Audrey.
Bonjour Vincent. Et bonjour à tous.
Alors, épisode spécial news. On a quand même quelques news. Hein. Vous savez que le monde de l'IT bouge beaucoup, donc tous les 15 jours, on a quand même des petits trucs à dire. Allez, je vous propose de commencer par la partie Java. Hein. Alors, des petites news sur Java. Déjà, la première first release candidate de Java 12. Hein. Je sais que tout le monde est sur Java 8 et que tout le monde s'en fiche de Java 11, mais là on vous parle de Java 12 quand même. Voilà. Alors c'est quoi les nouveautés de Java 12?
Je les ai plus en tête.
En fait, vous avez vu, tout le monde s'en fout, même nous, c'est terrible. Allez, je propose de passer à un truc un peu plus impur.
Bien joué.
Bon, je sais pas vous, mais moi je commence à être un petit peu perdu avec Java 8, 9, 10, 11, c'est payant, c'est pas payant.
Ah, je croyais que tu parlais de 12. Oui, j'allais dire, le problème de Java 12, c'est que effectivement on n'est pas dessus, nous, encore. Donc on est tous sur du 8, je sais pas si tout le monde, beaucoup.
Alors, justement, on parle de Java 8, 9, 10, 11, 12, OpenJDK, le JDK d'Oracle, enfin, on est tous un peu perdus, les LTS qui s'accélèrent, il faut payer pour Java. Et donc là, on a un super article écrit il y a quelques jours par les Java Champions, un article que je vous recommande parce qu'il y a une version courte et une version très très longue, qui essaye de nous expliquer ce qui va se passer avec Java. Est-ce qu'il faut payer, pas payer, à partir de quand on paye, jusqu'à quand on paye, est-ce qu'il y a un moyen de pas payer?
Alors c'est un article qui a été écrit il y a plusieurs mois et qui a été remis à jour.
Et
globalement ça va vous récapituler la liste des options disponibles si vous voulez continuer à avoir accès à un JTK qui soit gratuit. Donc vous avez plein d'options hein, parce que vous avez Adopt OpenJDK, Amazon Koreto, Azul Zulu, Bellsoft Liberia, OpenJDK, etc. Et puis ça vous récapitule aussi les options si vous avez besoin d'avoir accès à un support, tout simplement, puisque ça peut arriver aussi.
Oui. Et voilà, hein, en gros, pour faire simple, le JDK d'Oracle va être payant. Alors il y a même des dates, hein. Java 8 va être payant jusqu'en 2000, où est-ce que j'ai lu ça là? En 2025. Et Java 11 jusqu'à 2026. Donc on va rentrer dans une phase de support payant. Mais qui s'arrêtera, hein, bien sûr. Vous imaginez bien qu'Oracle va devoir maintenir le JDK 8 jusqu'en 2025, c'est quand même super long. Avec tout, donc avec tous les avantages aussi que ça a, hein, c'est que vous allez avoir des patchs, etc., etc. Mais ça sera payant, voilà. Et donc l'article, comme disait Audrey, liste différents choix, puisque vous savez que l'Open JDK, bah, y a plein de boîtes
contributrices,
en fait. Oui. Et donc, comme disait Audrey, vous avez, si vous voulez pas payer ou si vous avez besoin de payer du support, mais vous voulez pas le support d'Oracle, vous voulez autre chose, bref, il y a effectivement vachement plus de choix qu'avant, puisqu'il y a SAP, Red Hat, IBM, etc., etc. Donc voilà, c'est vrai que ça change un petit peu, hein. On vient d'un monde où Java c'était gratuit tout le temps, Ad Vida, Eterna, enfin bon, presque.
Enfin moi j'ai pas compris, exactement ça, Antonio. Sur la version d'Oracle, pour moi elle est pas payante non plus, JDK d'Oracle, pendant une période donnée,
oui.
Qui est la période jusqu'à ce qu'il y ait une suivante en fait, en gros, si je comprends bien.
Oui.
Et pendant toute cette période-là,
oui, c'est une période de 6 mois, je crois. Clair. Oui. J'ai peut-être pas été super clair, mais effectivement, alors typiquement, le JDK 8 va commencer à être payant. Alors attendez, il parle des dates là. C'est pas tout de suite, hein, mais il va commencer à être payant. J'arrive pas à retrouver la date. Avril 2019. Avril 2019. Ah bah oui, c'est
Au
bientôt en
1er
fait.
avril.
Ouais,
Ben
voilà.
oui, mais en fait, le JDK 8, il n'est pas tout jeune non plus, en fait.
Non.
Enfin, Il est pas tout
tu
jeune
vois,
non
même si
plus.
tout le monde n'a pas migré dessus, mais en réalité, c'est déjà une version qui a un peu d'âge.
Oui.
Donc,
Mais en fait, ils sont tous payants, faut savoir, enfin, qu'ils sont tous payants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les sociétés, elles te fournissent du gratuit
Oui.
pendant un certain temps, mais si tu veux aller plus loin que ce temps gratuit, il faut payer, c'est logique.
Oui,
Simplement,
à
c'est
part que
la seule
là.
différence, c'est qu'elles vont être plus ou moins, il y a certaines vont offrir une période plus ou moins longue de support gratuit avec des patchs sur cette version-là. C'est juste ça la
Oui.
différence pour moi. C'est juste Oracle a décidé de le faire relativement court et les autres ont décidé de faire un peu plus long.
Ouais, et il y a aussi une donc à partir d'avril 2019 si vous voulez les mises à jour, il faut payer. Donc ça c'est pour le commercial use, mais ce qui est quand même assez nouveau, c'est qu'à partir de décembre 2020, alors une fois de plus, c'est pas tout de suite, mais à partir de décembre 2020, vous allez aussi devoir payer pour du développement. C'est-à-dire que sur votre laptop, sur votre desktop, à partir de décembre 2020, si vous voulez utiliser Oracle JDK 8, vous êtes censé payer. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté quand même. Le coût du développeur qui doit payer pour avoir un JDK 8 sur son
Ouais.
laptop.
La super news quand même, hein, c'est que tout Java est open source, il n'y a plus de partie propriétaire, etc. Tout est mis dans l'OpenJDK. Et donc en fait toutes les sociétés commerciales sont au même niveau maintenant, à peu près, pour offrir du support là-dessus. Donc ça c'est la super news. La news un peu plus difficile pour nous utilisateurs, c'est qu'on a le choix maintenant. Avant c'était super simple. Et là, par exemple, chez XWiki, là, on voit qu'à partir d'avril, notre JDK d'Oracle qu'on utilise, bah, il va plus être supporté, il y aura plus de patch. Et donc, il va falloir qu'on choisisse. Et du coup, se pose la question, lequel on prend. Et là, on a toute une grosse discussion interne à l'église pour être d'accord sur lequel on prend, et on ne sait pas trop. Donc, c'est le choix est bien, mais c'est vrai que ça amène des nouvelles questions et savoir lequel prendre maintenant, bah, je n'ai pas encore la réponse.
Oui. Alors pour XWiki c'est peut-être différent, mais il y a aussi l'autre choix, hein, ils en parlent. C'est que vous passez à OpenJDK 11, puis 12, puis 13, puis 14. Voilà. Donc on est aussi, voilà, là on est en train de nous dire que il y a un autre choix qui est d'upgrader tous les 6 mois. Et pareil, on n'était pas vraiment habitué à ça. Hein. Donc voilà, c'est peut-être un peu notre écosystème là qui est un peu bouleversé. Peut-être que les boîtes vont se mettre à mettre à jour tous les 6 mois. Bon, pas mes clients a priori, mais peut-être ceux des autres.
J'y crois pas trop, hein, en production, tous les 6 mois, j'y crois pas une seconde.
Ouais, non, ça me paraît un peu compliqué, mais
Déjà,
bon.
toutes les LTS, ça va déjà pas être facile.
Oui.
Non, tous les 6 mois.
Voilà, bon, sachez que si vous payez, vous avez l'Oracle JDK jusqu'en 2025, et comme dit Audrey, déjà la version 8, elle est pas toute jeune, donc c'est quand même un support de 10 ans, quoi. C'est assez balèze.
Ouais, et puis
Bon,
Amazon
bref.
Coreto, j'ai regardé récemment, là, il y a encore au moins 3 ans, je crois, quelque chose comme ça, hein, sur le JDK, sur le Java.
D'accord,
Oui, bah,
d'accord.
c'était l'annonce fracassante, justement, de dire, ah, mais nous, on va vous proposer un support
Ben
plus
c'est le
long.
même, hein, c'est OpenJDK sur lequel ils ont fait des backports de security fix des JDK d'après, en fait.
Mais c'est vrai que si tu veux, ça fait un peu le chien qui déboule dans le jeu de quilles, quoi. Bah, avant, on s'en occupait pas, d'un coup, on déboule avec un JDK et regardez, c'est trop bien, on va faire plus de support qu'Oracle. Ouais,
Ouais, mais c'est le même en fait.
ok.
Donc, à mon avis, il y a peu de
Ouais.
risques. Moi, mon point de vue pour l'instant, j'ai pas, faudra voir l'expérience, mais qu'en fait, tu peux prendre n'importe lequel. C'est en gros, grosso modo, il va y avoir beaucoup de différences
Oui, non, non,
et tu es
normalement
tranquille.
c'est minime. C'est
Voilà.
en fait de toute façon normalement c'est sur des fonctionnalités qui impactent vraiment très peu de monde. Enfin, t'as très très peu de gens qui vont avoir besoin d'une version spécifique qui va gérer tel truc. C'est ultra spécialisé.
Ouais, je pense.
Bon, et Emmanuel Bernard, il est où là?
Eh ben, il
Emmanuel?
est aux
Allô,
États-Unis.
Emmanuel? Ah bon?
Enfin,
Mais pourquoi?
parce qu'il bossait sur un petit projet comme ça, entre deux, parce qu'il s'ennuyait.
Un Hello World?
Ouais, un espèce de gros Hello World, ouais. Ça s'appelle Quarkus.
Quarkus.
Voilà, c'est un framework Java, mais Kubernetes native.
Alors, annoncé hier quand même. Hein. Là où on vous parle, où on est vendredi 8 mars, ça a été annoncé hier. Hein. Donc, les cascodeurs, toujours chaud patate, mais pas de bol, Emmanuel n'est pas là pour en parler.
Non, mais alors, on fera sûrement une interview. Emmanuel ouais. nous expliquera le projet plus en détail, mais... Effectivement, c'était prévu qu'il n'était pas là cette semaine parce que justement, il s'est fait pas mal d'allers-retours aux États-Unis ces derniers temps pour travailler là-dessus. Parce que nous, il nous spoil depuis
le
des mois.
Le petit cachotier.
Hein. Il n'avait pas, hein. Nous, il nous disait, ouais, je bosse sur un truc.
Mais il nous a rien dit.
Parlé.
Il nous
a
rien dit.
Ah bah, non, il nous a rien dit. C'est qu'on répète tout. Mais qu'on répète
et
tout.
On l'a fait boire en plus, hein. On l'a fait boire.
Ah, on a essayé,
rien,
hein.
Il a rien lâché.
À son anniversaire, tout, on l'a cuisiné. Rien.
Rien. Que dalle.
Et donc, ouais, c'est un framework Java Kubernetes native qui est taillé sur mesure pour fonctionner avec GraalVM et avec OpenJDK Hotspot.
Oui.
Qui va s'appuyer sur un petit peu toutes les briques populaires et éprouvées de Java, enfin de la plateforme dans son ensemble. Donc il y a Hibernate, Netty,
Hibernate.
Vertix. Camel, Eclipse Microprofile, etc. Donc c'est un framework qui est plutôt orienté microservices, mais alors je vous ai mis deux articles parce qu'il y en a un, notamment de Mark Little, qui est intéressant dans le sens où il explique un petit peu l'idée qui a mené à la naissance de ce projet, la réflexion qui est en cours depuis une dizaine d'années en fait, et la volonté de ce projet, c'est de prouver que Java reste une plateforme pertinente et de la rendre leader dans des environnements qui sont de plus en plus orientés cloud, container, serverless, microservices, etc. Parce que justement le gros shift qu'il y a eu dans l'industrie ces dernières années pouvait laisser à penser que Java était plus vraiment pertinent de par son côté justement parfois un petit peu éléphant
le startup time hein, qui était super voilà. Enfin on en parlait beaucoup, c'était genre faites des microservices sans Go parce que ils démarrent vite et on les arrête vite, donc lorsque vous en mettez plein sur le cloud vous payez uniquement les cycles de CPU que vous utilisez alors que Java, la JVM elle coûte cher, etc. C'est vrai que c'était un peu un leitmotiv qu'on entendait depuis quelques années. Et c'est vrai que côté Java, on voyait pas grand-chose venir, et puis on a eu GraalVM.
Voilà, et là justement, la réponse, c'est que Quarkus va permettre de produire des exécutables natifs. Donc il y a un temps de démarrage qui est de rien du tout. Il y a une empreinte mémoire minimum, et puis ça va aussi permettre des modifications à chaud. C'est-à-dire que tu modifies, tu refais ton image, tu la redéploies, et puis tu testes, quoi. Donc c'est un très très beau projet. J'ai hâte que Emmanuel nous en dise plus, mais je pense que c'est très prometteur, ouais, comme truc.
Alors hier sur Twitter, ça c'est un peu, la twittosphère s'est un peu emballée, donc il y a eu tout de suite la comparaison avec Micronaut, et c'était intéressant. Il y a eu, je crois que c'est Emmanuel qui a répondu, je crois, mais c'est intéressant parce que Micronaut, hein, c'est on a banni le proxy, c'est terminé, tout se fait, la compilation parce que le proxy ça coûte cher, etc., etc. Et apparemment, Quarkus a pas fait tout à fait comme ça. Puisque on utilise Hibernate, CDI, tous ces machins qui reposent énormément sur des proxys. Et donc une fois de plus, Emmanuel nous en parlera plus, mais a priori Quarkus fait un peu des deux, c'est-à-dire que utilise des proxys par endroit, mais arrive quand même à faire des choses à la compilation comme Micronaut. Donc hier il y a eu un petit bourrage, un petit tirage de bourre sur Twitter. Et Micronaut il va plus vite, mais non, mais non. Et puis moi j'ai quand même posé la question qui fâche, et a priori on aura une réponse aujourd'hui. C'est qu'en est-il de Wildfly Swarm, donc Thorntail?
Oui, tout à fait. Oui.
Et pour ceux qui y ont suivi, il y a eu Wildfly Swarm 1, Wildfly Swarm 2. Ils l'ont renommé en Thorntail 4. Où est passée la numéro 3? Aucune idée. Et en fait, la 4, elle sort pas du tout depuis un an. Et je crois comprendre pourquoi. Je pense que tout le monde chez Red Hat était occupé à Quarkus. Donc
a priori, ça fait 9 mois qu'ils travaillent dessus. Donc effectivement, je pense que quand tu vois le degré d'achèvement du produit qui est livré là, certainement que les équipes ont été entièrement mobilisées dessus les 9 derniers mois.
Et Thorntail qui bouge pas. Donc il y aura peut-être une annonce aussi de faite aujourd'hui ou dans ces jours-là. Bon, pour moi, Thorntail est mort. Hein. Alors attention, hein, c'est pas Wildfly, JBoss, Sorntel, c'était vraiment Wildfly Swarm, qui a rien à voir avec Wildfly, hein, donc c'est pour ça qu'ils l'ont renommé Sorntel, mais toujours quand même basé sur le serveur d'appli, les proxys, etc., etc. Donc voilà. Moi, j'ai l'impression que Sorntel est mort, mais je m'avance un petit peu.
Alors moi, j'ai un point de vue extérieur parce que je connais pas tellement le sujet. Et en fait, quand j'ai vu l'annonce de Quarkus sur Twitter, j'ai vu une phrase où il y a à peu près 5 buzzwords sur 8 ou 10. Et donc, j'ai eu du mal à comprendre, en fait. Et je suis pas toujours sûr de comprendre. Alors, j'ai compris que c'est ce que tu disais, Antonio et Audrey. C'est-à-dire que ça permet de démarrer beaucoup plus vite avec une empreinte mémoire plus faible aussi. En revanche, ce que j'ai pas compris, c'est que du coup, il faut que tu codes tes applications, tes services, tes microservices d'une manière particulière. Hein. Tu prends pas un microservice qui existe et tu le passes à une mulinette pour le rendre natif, c'est ça. Il faut le coder de manière particulière.
Bah non. Ah. Alors, les 4 lignes de code qui montrent, hein, ouais. Alors une fois de plus, c'est du Hello World, mais quand tu vas sur leur site, les 4 lignes de code qui montrent en impératif et en réactif aussi, c'est parce qu'on en a pas parlé, mais ça fait aussi du réactif. Ça utilise, enfin les 4 lignes de code, t'as un at inject, c'est du CDI, t'as un at get, c'est du JAX-RS. Donc je pense qu'une des forces, contrairement à Micronaut, c'est que comme il s'appuie sur la stack MicroProfile, où t'as du CDI, du JAX-RS, avec de l'Hibernet, donc du JPA, je pense que là où ils ont fait assez balèze, c'est que tu peux prendre la stack que tu connais, CDI, Hibernet, JAX-RS, tu utilises les mêmes annotations et derrière il y a un peu de magie qui va te compiler nativement, qui va essayer de virer les proxys, etc., etc.
Donc tu es en train de dire qu'il y a un certain nombre de frameworks connus qui marcheront bien. Ouais. Et toi, tu utilises une appli lambda qui utilise des tonnes de trucs qui vont pas forcément marcher, va pas forcément marcher, c'est ça?
Alors là tu mets le doigt effectivement sur quelque chose. Ils ont beau dire que il y a du Rest Easy, de l'Hibernet, du Vertex, du MicroProfile, du Netty, du Camel, blablabla, comme tu dis, si tu prends ton framework maison à toi, où ça marche pas, mais ça m'étonnerait, où ça marche mais en mode dégradé, c'est-à-dire j'optimise rien, il y a rien au compile time, tu utilises tes proxys, tes trucs, voilà, c'est vrai que ça reste encore un peu flou. Mais je pense que la force, c'est se baser sur des trucs qu'on connaît, en fait. Contrairement à Micronaut, qui est un framework aussi hyper intéressant. Hein. Mais par contre, Micronaut, c'est from scratch. Même faire un HTTP GET, tu n'utilises pas du tout les mêmes API. Mais bon, une fois de plus, l'annonce a été faite hier. J'ai même pas eu le temps de faire un petit Hello World. Je sais pas vous, mais...
Non, j'ai pas eu le temps. Moi, j'ai eu le temps de lire les articles et c'est tout. J'essaie de comprendre ce que ça faisait. Mais non.
Petit cachetier, Emmanuel. Allez, on revient sur le monde des proxys. puisque il y a une nouvelle version de Spring Boot.
Oui.
2.1.3.
Voilà, alors c'est pas forcément une version hyper révolutionnaire, mais par contre, si vous êtes en 2.0, il est recommandé de passer dessus, parce que tout simplement, la 5.0 de Spring arrive en fin de vie en mars, et ouais. Spring Boot 2.0 fera de même avec une release finale fin mars. Donc voilà, c'est pas mal d'anticiper et de passer sur la 2.1, et de son côté, Spring Boot 1.5X continuera à être maintenu jusqu'à ce qu'il arrive en... Complete End of Life en août. Voilà.
Je sais pas vous là, mais j'ai l'impression que on nous pousse de plus en plus là, à upgrader avec tous ces End of Life extrêmement courts. J'ai l'impression que Spring Boot 2 c'était hier, et là on dit oh là là, passe à Spring Boot 2.1 parce que sinon End of Life.
Bah moi ce qui est sûr, c'est que maintenir des branches en parallèle ça coûte cher pour ceux qui développent. Donc ils essayent de maintenir un minimum, donc ils poussent à upgrader pour maintenir un minimum. Et je pense que globalement, dans le monde entier, les concurrences augmentent. Hein. Il y a beaucoup de frameworks concurrents, donc il faut aussi aller vite. Et donc les deux font que tu as des nouvelles versions régulières, et du coup on pousse à upgrader parce que sinon il faut que tu maintiennes les vieilles versions. Donc c'est sûr. En tout cas, moi je vois ça dans nos projets open source, c'est un peu pareil. Hein. Sur XWiki en open source, on ne maintient que celle en cours et la dernière LTS et celle d'avant, bah, il faut avoir un support payant, etc. Et on a peur parce que c'est trop, sinon le projet est stable. On n'a pas assez de puissance pour progresser et maintenir tous les trucs aussi.
Ouais, ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que le langage originel de Java qui était on est compatible et on est super fier de dire que le JDK 11 a encore la classe Vector, supporte encore la classe Vector. Il y a d'autres écosystèmes qui ont choisi une approche différente et c'est vrai que j'ai l'impression si dans notre industrie à nous le refactoring est mal vu, la maintenance est mal vue, tout ça c'est parce que notre histoire c'est quand même Java 11 supporte encore Java 1 et on est tous hyper fiers. Et là j'ai l'impression que c'est un peu en train de changer. Alors bien sûr Java est encore compatible hein, mais on accélère et moi je me dis qu'un de ces quatre on va vraiment il y aura un Java X qui va dire stop. Stop, on peut plus être compatible. Stop, et je verrais bien un Java 15.
Bah c'est le cas, quasiment. Dirait, c'est quasiment le cas aujourd'hui. Tu regardes les Java 11, 12, etc. Ils ont des trucs qui cassent. Simplement, tu continues encore à compiler les anciens parce que t'as des flags de backward compatibilité.
Oui.
Ouais. Et dès que ces flags de backward compatibilité sont enlevés, c'est cassé.
Ouais.
Et donc notamment les classes loader là, c'est fait complètement différemment. Je peux partir duquel ? C'est quoi ? C'est 12 ou 11 ? Je sais plus. Dès que ce truc-là sera regardé, ça va faire un énorme changement si le flag est enlevé, parce que, avec du class loader, on en a beaucoup dans nos codes.
Mais, comme tu dis, ils continuent à maintenir ce vieux code, alors avec des flags, soit, mais ça va être un sacré boulot, quand même, hein, de maintenir tous ces flags, la compatibilité de tous ces machins-là.
Et c'est vrai qu'il y a deux choix. Il y a les frameworks qui décident pour aller plus vite, de pas rien maintenir du tout. Et puis il y a ceux qui voient plutôt leurs utilisateurs et qui essayent de maintenir une cohésion sur leur communauté, etc. Ouais. C'est le choix qu'on a fait nous, XWiki, mais d'autres, genre Angular, ça m'a fait, c'était exactement pareil. Hein. On était parti sur Angular, Angular 2, paf, 6 mois plus tard, Angular JS, fini Angular 2, d'autres pour écrire. Bon, bah, on a dit bye bye Angular, on recommence plus dessus.
Ouais, ouais.
Mais c'était un bon choix pour eux parce qu'ils récupèrent des nouveaux utilisateurs, mais les anciens, ils sont morts.
Allez, on passe sur la partie middleware. Vous avez vu, on n'a pas mis Quarkus dans la partie middleware, quand même. Voilà, qu'est-ce qu'on est fort. Et ben sur la partie middleware, on a la suite Elastic 6.6.0 qui vient de sortir. Alors, je vous avouerai que moi, j'ai pas suivi. C'est quoi les nouveautés de la 6.6.0?
Ah bah, il y en a plein. C'est chouette parce que quand tu te souviens d'Elastic au début, et c'était déjà un super projet, hein, au tout début, moi je faisais du Solar à l'époque, donc je peux te dire que la première présentation de David Pilato d'Elastic à Devox France, je m'en souviens encore, j'avais des étoiles dans les yeux. David s'en souvient encore aussi, je pense. Mais c'est chouette parce qu'il y a vraiment beaucoup d'améliorations qui continuent à être amenées, ça continue à beaucoup évoluer. Dans celle-ci notamment, il y a une fonctionnalité de gestion du cycle de vie des index, alors qui est quelque chose qui concerne surtout les index qui vont stocker des données de séries temporelles. Des séries de données temporelles, pardon. Parce que le fait est que ce genre d'index va grossir assez rapidement, mais quand il vieillit, il est quand même moins requêté, moins utile. Mais on va dire que son importance n'est plus aussi primordiale que lorsqu'il est celui qui est utilisé actuellement. Et donc, les méthodes qui existent à l'heure actuelle pour gérer le cycle de vie de ces index, elles résident en dehors du cluster. Donc, ça les rend à la fois limitées et puis ça les rend souvent coûteuses en configuration, en monitoring. Là, cette fonctionnalité de gestion du cycle de vie, elle va donner quatre phases pour le cycle de vie. Donc, il va y avoir la phase hot, c'est l'index qui est en cours d'utilisation.
Chaud patate.
Voilà. Warm, c'est... En fait, les anciens index vont être déplacés vers de new warm. Ils occuperont plus qu'une seule partition et on va forcer la fusion en un seul segment. Donc comme ça, on va optimiser le stockage et la recherche. Il y a la partie cold. Donc là, en fait, en cold, le stockage va être plus économique. Hein, c'est vraiment une fois que le nœud commence à vraiment dater. Et ensuite, il y aura la suppression. Et ça vient notamment avec des meilleurs ratios sur le stockage et la mémoire grâce aux index gelés. En fait, les index gelés, donc un index, quand il est ouvert, il va utiliser une petite quantité de mémoire. de manière à assurer une rapidité d'exécution des requêtes. Et évidemment, bah, plus il y a d'index sur un nœud, plus le maintien de cet état ouvert sur chaque index va nécessiter de mémoire. Donc un index gelé, c'est un index qui n'utilisera plus aucun segment de mémoire, ce qui fait qu'un nœud va pouvoir en gérer des milliers d'index.
Smart.
Voilà, et l'idée, c'est de se dire, bah, typiquement, quand tu es sur de la donnée temporelle, quand elle est extrêmement récente, il faut qu'elle soit requêtable très vite, mais quand elle est un petit peu plus ancienne, on peut accepter, tu vois, on pense par exemple au cas de l'administration qui stocke des masses et des masses et des masses de documents. Bon, il est tout à fait acceptable que quand la donnée est un petit peu plus vieille, on mette un petit peu plus de temps pour aller la rechercher, c'est pas... Voilà. Il y a aussi les formes géométriques qui, basées sur l'arborescence BKD qui sont introduites dans cette version d'Elastic. Et en fait, en 5.0, ça avait déjà été introduit sur les points géographiques, ce qui amène pas mal de gains en termes d'espace et de performance. Ça va permettre d'indexer plus vite, notamment, et puis d'avoir une moindre consommation de mémoire et un gain d'espace disque. Et donc, comme ça a fait ses preuves sur les points géographiques, c'est étendu aux formes géométriques dans cette version. Il y a aussi des annotations qui font leur apparition dans la partie machine learning du produit. Donc ça va vous permettre notamment de tracer votre progression et vos résultats dans la détection de problèmes potentiels. Il y a aussi Elastic APM. Alors APM, c'est la partie monitoring des performances applicatives qui amène de nouveaux indicateurs pour les agents. Donc, elle va notamment générer automatiquement des indicateurs qui sont relatifs au processeur, à la mémoire, sur le système, sur le processus, etc. Et côté Java, plus particulièrement, on peut maintenant utiliser le wildcard dans le traçage. Et puis, ce qu'ils appellent l'automatic agent attacher, parce qu'il faut bien que tu attaches ton agent APM à ta JVM, requiert maintenant moins de configuration. Et APM est également disponible maintenant au déploiement sur Elasticsearch Service, ce qui est le déploiement sur AWS et GCP, et sur Elastic Cloud Enterprise, qui est du on-premise. Voilà. Et puis, il y a encore d'autres trucs, parce qu'il y a Logstash, par exemple, qui a un moteur d'exécution Java qui est beaucoup, beaucoup plus performant maintenant. Il était en bêta jusque-là, il est maintenant officiel avec cette nouvelle version. Il y a le fait qu'une seule instance Kibana va maintenant pouvoir gérer plusieurs nœuds Elasticsearch. Ça, c'est très intéressant aussi. Et puis, voilà, d'autres choses que je vous laisse aller lire.
Eh ben dis donc, et tu fais ça matin, midi et soir.
Ah mais je kiffe ouais, Elasticsearch.
Elasticsearch.
J'adore ce produit.
J'ai une breaking news avant de passer à l'autre news. Alors là, on est vraiment sur le chaud patate là. Je viens juste de recevoir un tweet de Ken Finnegan. Donc Ken Finnegan, c'est le rédacteur qui est responsable de Sorntel, ex Wildfly Swarm, et il me dit que malheureusement
il t'a envoyé le faire-part de décès.
non mais aujourd'hui, comme tout le monde rentre de la conf, que c'est un peu le bazar, il aura pas le temps de poster le blog aujourd'hui sur l'annonce de Sorntel, enfin qu'est-ce qui va se passer avec Sorntel. Il le publiera lundi, voilà. Donc si c'est un truc qui vous intéresse, enfin moi j'aime bien, enfin j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer avec Sorntel. Il va falloir attendre lundi. Voilà où pour ça, c'était pour la very hot news. Une autre news aussi. Si vous êtes dans le monde Kafka là Audrey parlait des premières versions d'Elastic et aujourd'hui la version 6 qui a pas mal évolué, je sais pas vous mais moi j'ai fait du ZooKeeper il y a très longtemps, c'était juste insupportable, je sais pas.
Alors,
si ça a beaucoup bougé ou pas.
Moi j'en faisais à partir de 2012 je pense, et j'appelais ça ZooKeeper.
Ouais, voilà.
Et j'en fais toujours et en fait ça se passe nettement mieux. En vrai, ils ont beaucoup stabilisé la stack. Ils ont vraiment fait un très très bon boulot. Mais ça n'empêche pas que
ça n'empêche pas de Kafka de dire ciao ZooKeeper.
Voilà. Alors c'est donc effectivement ZooKeeper était utilisé par Kafka pour assurer la cohérence du cluster, hein, tout simplement sa configuration, la découverte des pires, etc. Et il s'avère que son utilisation est jugée porteuse de confusion pour les débutants. Et puis ça, bon, par contre, c'est vrai que c'est inhérent à ZooKeeper, ça rend le déploiement de Kafka plus complexe. Nous, on le voit sur les machines. En général, quand tu as un démarrage qui se passe mal sur une machine, c'est Kafka qui est dans les choux. Bon, voilà. Et il est donc, y a une proposition de le remplacer par Atomix, qui est un framework Java réactif et event-driven, qui propose par exemple des versions distribuées de primitives Java, comme les maps, les locks, les counters, qui supporte également plusieurs protocoles distribués comme Raft, Gossip, Primary Backup, et qui va également mettre à disposition des blocs qui vont permettre l'implémentation de tous les éléments qui sont juste indispensables au management d'un cluster. Bah, le fait d'ajouter un membre au groupe, d'élire un leader, de partitionner, de répliquer, de contrôler la concurrence distribuée, tout ça. Comme la consistance est l'élément le plus important du théorème CAP pour Kafka, ils ont opté pour l'algo multi-raft, qui va par exemple, ça, je trouvais ça intéressant, il va prendre tous les heartbeats d'un node et il va les regrouper, comme ça il minimise les appels réseau. Ça trop paraît tout fort. Con comme ça en fait, mais c'est hyper malin.
Bah oui.
voilà, et puis ça va permettre que chaque groupe de consensus va avoir son propre leader raft, là où en fait Zookeeper, lui, il maintient un leader et le leader, il envoie les updates à tous les réplicas. Donc l'intérêt de migrer, bah, évidemment, c'est de simplifier le déploiement, de simplifier l'architecture. Ça fait que Kafka ne repose plus sur un service extérieur, donc ça c'est aussi assez important. Ça va notamment faciliter la déclaration de manifeste Kubernetes. Et puis sur des clusters petits, médiums, bah, tous les nœuds pourront être identiques. En fait, il ne sera plus nécessaire d'avoir d'un côté les brokers et puis de l'autre les serveurs Zookeeper. Donc il y a une démo qui est disponible avec un Docker Compose qui va lancer un cluster avec 3 nœuds, mais pour le moment c'est pas recommandé de migrer parce qu'il y a encore besoin de faire des tests de résilience dessus. Et le truc c'est aussi que cette proposition là, de migration avec Atomix, elle repose sur la branche 1.1 de Kafka, et la 2.2 elle fait usage de l'opération l'opérateur multi de Zookeeper. Donc Il y a déjà un truc qui est envisagé pour le porter en Atomix, mais pour le moment ce n'est pas fait. Donc voilà, ne migrez pas tout de suite, mais en tout cas c'est assez intéressant d'aller voir ce truc, d'aller lire la logique derrière.
Eh ben t'es forte Audrey, hein, parce que là moi j'ai pas du tout suivi ça. Moi j'ai laissé tomber The Rookeeper et tout ce machin. Enfin ça.
Mais non, mais c'est que je fais du Kafka et j'aime bien ça.
Ouais. Marrant, ça me passionne pas plus non plus. Allez, la partie web, ça me passionne, j'ai toujours été un développeur.
T'as sauté la partie infra.
Quoi? Infra? Ben on en a parlé. Ah non, pardon. Bah
non.
Oui, il manque une ligne. Oh là, oui,
j'ai un super article de Jesse Frazal. Me fais pas sauter mon super article de
Allez,
Jesse Frazal.
Allez, go Audrey, go. Allez, fais ton monologue.
Donc c'est un document. En fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Jesse a publié ses réflexions sur comment implémenter un orchestrateur de containers multitenant et sécurisé. Donc c'est si vous voulez, c'est des notes qu'elle des notes de design, elle appelle ça Secret Design Docs. Il y a des trucs comme ça qu'elle a dû gribouiller dans un coin, etc. Et elle s'est dit que ça serait intéressant de les partager, et effectivement j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et donc elle réfléchit comme ça à comment est-ce qu'on ferait pour avoir un orchestrateur de containers multitenant sécurisé. Et donc elle pose quelques prérequis de base. Elle dit par exemple voilà, faudrait une API qui run les images Docker en isolant chaque process. Ça, si vous avez écouté le dernier épisode news des Cascodeurs, vous voyez de quoi on parle. Y a des fonctionnalités annexes, comme par exemple un truc qui maintenant devient essentiel, ce serait la possibilité de tuer tout process de minage de Bitcoin en utilisant les traceurs BPF.
Trop fort.
Et après, au niveau des containers, l'idée, ce serait de poser des trucs. Enfin, encore une fois, hein, ça paraît idiot quand on l'énonce comme ça, mais en vrai, c'est pas tout le temps fait et c'est juste indispensable. Ce serait pour chaque container d'avoir une limite CPU, une limite mémoire, une limite sur la bande passante, un réseau qui soit isolé de tout le reste, etc. En ce qui concerne l'OS host, elle insiste sur le fait qu'il devrait être le plus minimal possible, dans le sens où ça permet de réduire l'exposition à des failles. En ce qui concerne le runtime, en fait, elle recommande d'utiliser un hyperviseur, donc une plateforme de virtualisation, tout simplement pour être sûr que la config des containers qui vont être utilisés ne va pas abaisser la sécurité du cluster au total. Et donc là, il y a un truc intéressant, c'est dans la rubrique « Autre », elle met « Ne pas utiliser Kubernetes ». Donc c'est un petit peu surprenant, je pense, pour beaucoup de gens, vu qu'on est dans une logique Kubernetes all the things.
On sait plus sur quel pied danser. Là, on nous dit il faut faire du conteneur. Après, on nous dit il faut plus en faire. On nous dit il faut orchestrer avec Kubernetes. Maintenant, on nous dit il faut pas le faire.
Le point de vue de Jessie, il est hyper intéressant. C'est que elle dit voilà, le problème de Kubernetes, c'est que c'est très difficile à sécuriser complètement parce qu'il y a beaucoup de composants et il y a un gros manque d'isolation entre certains d'entre eux. Par exemple, tu vas pas pouvoir sécuriser la communication entre ton Kubelet et ton API Server. Donc déjà, rien que ça, voilà, tu as une faille à ce niveau-là. Et en plus, elle a vu beaucoup de cas d'utilisation où des layers de sécurité étaient désactivés par accident parce qu'en fait, c'est faisable assez facilement, trop facilement par accident. Et ce qu'elle disait, c'est que pour elle, il y a 90% des fonctionnalités de Kubernetes qui ne sont pas nécessaires et que si on restait sur une implémentation beaucoup plus simple, et bien évidemment, on se facilite la tâche pour sécuriser la communication des composants et donc la sécurité du cluster en entier. Voilà. Donc, c'est très intéressant, ce document de réflexion. Oui, j'aime beaucoup Jessie Frazel aussi.
Oui, on voit ça. Bon, alors, moi, j'aime beaucoup le web, tout le monde sait ça, depuis très très fort longtemps. Et donc, on a plein de nouveautés web pour vous. Alors, déjà, la version 8 de Angular sort bientôt, puisque ça parle d'avril, il me semble.
Ça parle de deuxième trimestre 2019, donc oui, normalement, si tout va bien, on a une release candidate en avril et une general availability en mai.
Ah oui, voilà, c'est la RC en avril. Et puis il y a quelques belles nouveautés. Alors il y a un truc là moi où j'ai pas bien compris parce qu'ils mettent opt-in Ivy. Vous savez que la team Angular bosse sur Ivy déjà depuis un petit bout de temps. Donc Ivy ça serait le nouveau la version 3 du rendu qui portait un autre nom avant, enfin bref, et j'ai pas bien compris parce que moi j'étais persuadé que ça allait être dans Angular 8 et là d'après ce que je lis ça viendrait pas par défaut, il faudrait l'activer pour leur donner du feedback en fait.
Ouais, c'est ça. En fait tout ne sera pas immédiatement compatible Ivy. Par exemple, i18n ne sera pas compatible, le langage service ne sera pas fonctionnel. Donc, comme l'objectif, il est réellement de ne pas non plus faire réécrire aux gens leurs applications, dans un premier temps, ce serait du opt-in, de façon à permettre à l'équipe Angular de récupérer du feedback, d'écrire des outils de génération, de migration, pardon, si nécessaire, des choses comme ça. Et c'est ce qui ferait que l'opt-out, lui, ne serait pas nécessaire quand viendra la version 9 qui devrait arriver à l'automne si tout va bien.
D'accord. Voilà. Ah, parce que j'étais persuadé que Ivy allait arriver à la version 8 et là, je viens de lire les news et oui, d'accord.
Il arrive en opt-in.
Voilà. Bon, ok.
Et si tu veux, dans un premier temps, l'idée, c'est vraiment de pas casser, de pas faire réécrire le code aux gens, et par la suite il y aura de nouvelles API qui seront spécifiques à Ivy, etc. Mais alors dans les améliorations qui sont espérées, parce que on n'en a pas forcément plus parlé que ça d'Ivy, le code généré devrait être plus facile à lire et à débugger au runtime, le temps de rebuild sera plus court, ça c'est hyper intéressant, parce que c'est vrai que le temps de rebuild d'Angular parfois c'est t'as le temps d'aller te faire un café.
JSF à côté c'était plus rapide, en plus c'est vrai, c'est terrible.
La taille des payloads sera réduite aussi, il y aura un meilleur check des template type, voilà, des choses comme ça. Mais il y a d'autres nouveautés qui arrivent aussi avec Angular 8, hein, puisqu'il y a par exemple, il y a un loading différentiel sur le JavaScript. Donc en fait, la CLI, elle va commencer à produire des bundles séparés pour ES5 et pour les versions plus modernes de JavaScript, et ce sera loadé client-side, donc il y aura un meilleur temps de chargement. Il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est ce qu'ils appellent le Angular Router Backwards Compatibility. C'est quelque chose qui va aider à migrer les applis Angular JS en Angular en s'appuyant sur les API du module route.
Donc, oh punaise!
Ouais, c'est balèze comme truc. Hein.
Ah ouais?
Ouais, et voilà. Et alors, breaking news d'aujourd'hui,
today. Quarkus!
Non! On vous en parle souvent et on les a remerciés la dernière fois pour le boulot de fou qu'ils font, nos petits copains de Ninja Squad sur Angular. Cédric est maintenant contributeur officiel dans la team Angular et tout, Cédric Egroya. Donc félicitations. parce que c'est mérité aussi, avec le travail qu'il a fait depuis des années, etc. C'est une belle reconnaissance et elle est méritée. Félicitations.
Bon, ça c'était pour la partie Angular. Ah oui, il y a une petite news aussi qui m'a fait bien plaisir. C'est ESLint, vous savez, le fameux Linter.js là, qui est passé sur Open Collective. Vous savez, c'est toujours un peu le même souci, c'est que on commence à faire un petit projet open source avec des potes et
on se retrouve à 6,5 millions de téléchargements chaque semaine.
Voilà, et aujourd'hui ESLint s'est téléchargé presque 7 millions de fois par semaine et donc ils ont rejoint Open Collective. Par contre, assez balèze, hein, ils auraient besoin de 20 000 $ par mois. Donc voilà, bah écoutez, enfin je trouve qu'Open Collective c'est vraiment une plateforme super sympa, l'idée est vraiment pas mal. Donc il y a déjà Facebook, Airbnb qui sponsorise. Donc si vous utilisez ESLint comme comme beaucoup de gens et que vous voulez participer, filer un coup de main, Open Collective, voilà.
Ouais, super important de participer. Tu peux pas participer par du code ou des choses, participer par un petit don, ça aide beaucoup.
Ouais. Alors, oui, bah on quitte le monde d'Angular et on va sur le monde React. Il y a une version bêta de Ionic qui vient de sortir, enfin qui est sortie il y a une semaine ou deux. Bon, alors moi, Ionic, c'est pas ma cam, React non plus. Audrey, à toi le studio.
Ouais, alors pour rappel, parce que Ionic, tout le monde n'a peut-être pas en tête ce que c'est, au départ c'était un framework qui permettait de faire des applications mobiles hybrides en utilisant AngularJS. Donc c'est quelque chose qui est né en 2013, je crois, un truc comme ça, et qui au départ était complètement lié à AngularJS, en l'occurrence. Et puis, il s'avère que c'est un petit peu la même histoire qu'avec Quarkus. Entre 2013 et 2019, l'écosystème front a beaucoup, beaucoup muté. Ils le disaient assez bien dans l'article qu'ils expliquaient, React, qui était même pas dans notre radar à l'époque, est devenu un framework de premier plan. Donc, il y a eu des versions d'Ionic en fait qui ont commencé déjà par passer à Angular quand la team Angular a laissé tomber AngularJS pour Angular, et puis ils ont commencé à travailler sur le fait de dire moi j'aime beaucoup parce que bon j'ai développé sous Ionic dans les premières versions et j'aimais vraiment bien ça, mais en plus ils ont pris une option qui moi me conforte dans mes préférences personnelles. Ils sont partis sur les web components. Ils estiment que les web components sont la technologie d'avenir pour le web, et donc la version d'Ionic 4 qui est sortie en janvier, c'est que des web components, ce qui va permettre de supporter tous les frameworks front. L'objectif affiché, il est d'être le meilleur framework pour les progressives web apps. Voilà, mais ça leur permet aussi d'être compatible React, Vue, etc. Bon, après, être compatible tout framework, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut quand même supporter le système de routing de chaque framework, par exemple, et ça demande un petit peu plus de travail. D'où cette version React bêta, dans laquelle il y a 70 composantes proposées pour le moment, donc tous les composants sont pas disponibles, mais vous pouvez quand même commencer à jouer avec. Et alors, il est recommandé d'utiliser TypeScript avec. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une question qui se pose, parce que quand on fait du React pour faire de l'hybride mobile, il y a déjà React native, donc on pourrait se dire quel est l'intérêt. Le pari de l'équipe Ionic, c'est de se dire, mais là, en fait, t'as la possibilité de faire du desktop avec Electron, t'as la possibilité de faire du Progressive Web Apps, donc tu peux faire encore plus de choses avec la même base de code. Voilà. Donc à voir comment ça évoluera, et puis du coup ils continuent à travailler sur cette intégration de React et sur une intégration de Vue qui devrait arriver incessamment sous peu. Voilà.
Alright, on passe à la partie méthodologie. Alors bon, on a mis ça un peu sur méthodologie, mais...
Tu m'as sauté mon article authentication.
Oh punaise, mais j'arrête pas. Mais en fait, je scroll parce que j'anticipe. Audrey, à toi les studios. Désolé, j'ai scrollé trop bas. Excuse-moi.
Je sais que j'en ai mis beaucoup. Ouais, c'est un article sur l'authentification dans les single page applications. Donc c'est un article qui s'appelle Authentication the Right Way. Et je l'ai trouvé très très bien fait cet article parce qu'il va revenir sur les bases des problèmes d'authentification. Donc déjà les bases, c'est on communique qu'en HTTPS, on va pas passer de données sensibles en paramètres de requête, on va mettre des limites sur le nombre d'appels serveurs pour se prémunir des attaques par force brute. Donc plein de choses comme ça. Et puis ensuite il va analyser les deux techniques qui sont souvent utilisées pour faire l'authentification. Donc il y a le bearer token, qui est une valeur qui est passée en header, mais qui n'est pas stockée. Et cette valeur, elle a pas de nom de domaine associé, elle a pas de durée de vie. Par contre, elle a un payload, donc elle permet de passer, par exemple, des informations comme le rôle de l'utilisateur, etc. Et elle a une signature, ce qui va permettre d'assurer que le contenu n'a pas été compromis, le contenu du payload. Et donc souvent on utilise du JSON Web Token quand on veut utiliser des bearer tokens, et ça nous permet de rajouter une date d'expiration à ce JSON Web Token. Et de l'autre côté, il y a les cookies d'authent. Et donc les cookies d'authent, il y en a
et
plusieurs.
Et les macarons aussi, mademoiselle.
Oui, mais là on ne parle que... Ne complexifions pas les choses. Donc, dans les cookies d'authent, il revient sur les différents types de cookies. Donc, les cookies de session, les cookies permanents. Si vous voulez en savoir plus sur les cookies, vous allez voir l'extraordinaire talk de Monsieur Hubert Solonnière dessus.
Super.
C'est un grand moment. Bravo, de spectacle.
C'est génial.
Voilà. Prenez-vous du popcorn, installez-vous dans votre fauteuil. C'est à la fois très, très beau et très intéressant. Passez un bon moment. Au lieu de regarder un AV, regardez Hubert Sablonnière. En plus, vous apprendrez des choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec chacune des deux techniques, on reste vulnérable à pas mal de failles de sécurité, en particulier les attaques XSS. Les attaques XSS, en fait, c'est quand il y a une injection de script qui va essayer de récupérer des informations personnelles. Et donc, il propose une solution qui va permettre de gérer tous les types d'appels, parce qu'il y a les appels qui sont faits depuis le navigateur, il y a les appels qui sont faits machine à machine, donc serveur à serveur ou application à serveur, etc. Et en fait, cette solution, elle va s'appuyer sur une architecture un petit peu mixte, c'est-à-dire que on va utiliser le bearer token pour les appels machine à machine, mais on va mettre le bearer token dans un cookie pour les appels navigateur-serveur. Et il y a même une version un peu plus poussée où on le casse en deux, on met le payload dans un cookie permanent et puis on met la signature dans un cookie de session. C'est très intéressant et très bien écrit, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est une vraie grosse problématique qu'on ne gère pas suffisamment bien, je pense.
Ouais. Tu vois, je l'avais même pas vu puisque j'ai zappé, j'ai scrollé trop vite.
Mais c'est bon, parce que tu étais impatient d'arriver à Arnaud.
À la méthodologie. Alors,
oui.
Je l'ai pas vu, j'en ai beaucoup entendu parler, mais donc là on vous donne un lien sur une vidéo YouTube d'Arnaud Lemaire. Le titre de son talk, c'est Entre industrialisation et artisanat. Le métier du développeur, sommes-nous des industriels ou des artisans? Et j'ai beaucoup entendu parler de ce talk-là, mais je vous avouerai que je l'ai pas vu. Et je présume que toi, Audrey, tu l'es.
moi, j'ai fait la cuisine avec Arnaud Lemaire là, cette semaine. Parce qu'en fait,
vous avez mangé quoi?
Non, il était pas là. Moi, je cuisinais en l'écoutant, je buvais ses paroles.
D'accord.
Mais lui n'en a pas profité. Mais non, c'est vraiment... En fait, c'est le genre de talk qui fait du bien à entendre. Parce que, alors celui-ci, celui sur industrialisation et artisanat, c'est une analyse sur le fait qu'on s'applique des méthodes de travail du champ de l'ingénierie, ce qu'il appelle DeFine, donc l'ingénierie civile, l'aérospatiale, l'aviation, qui sont des champs d'ingénierie où le prototypage coûte cher, donc on va passer du temps à réfléchir aux choses avant de les faire, alors qu'on devrait plutôt s'appliquer les méthodologies de l'ingénierie empirique, donc la chimie, l'électrique, etc., où le prototypage coûte que dalle, et où en fait, après, on va théoriser ce qu'on a fait. Et c'est hyper intéressant, enfin, il explique ça très bien, parce qu'il dit par exemple que on a pris cette approche Academic First parce qu'on s'est dit que le coût du logiciel, il était dans l'intégration de toutes les briques produites. Donc, il faut le faire au plus tôt. Et puis, du coup, on fait des choix qui ne sont pas toujours pertinents parce qu'en fait, on ne réfléchit pas au problème, on va tout de suite réfléchir solution. Alors que ce qui coûte cher en réalité, c'est la longueur de la boucle de feedback. Et donc, il réassène quelques petites vérités qui font toujours du bien à entendre, comme le fait que tant que c'est pas livré, c'est du déchet, que la surqualité, ça n'existe pas, soit t'as de la qualité, soit t'as de la merde, que la qualité, en prime, c'est gratuit et ça peut même rapporter de l'argent. Hein
oui.
Et alors, il y a un bout que j'ai beaucoup aimé, c'est que la dette technique, c'est pas faire de la merde. C'est se dire, alors, est-ce que là, j'ai le temps de réécrire ce truc-là plus tard. Si oui, je m'autorise à prendre un raccourci dans mon design, parce que ça va me permettre d'accélérer, mais je suis conscient que là, ce que je viens de faire, c'est d'acheter de la dette, et qu'à un moment, il va falloir rembourser. Et donc, voilà, la dette technique, c'est pas écrire de la merde.
Oui,
en fait,
c'est vrai que c'est une autre approche, c'est... effectivement. Ouais.
Voilà,
ouais,
non, c'est hyper bien. Ouais. Il y a une autre conf, d'ailleurs, qui s'appelle Dette technique et entropie du logiciel, qui a été donnée au Brescamp l'an dernier, que vous pouvez vous regarder après. Tu vois, c'est un petit peu comme une trilogie Seigneur des Anneaux. Bon, bah là, tu regardes tous les tomes d'Arnaud Lemaire. Et après, tu
Seigneur
vas...
des Arnauds.
Voilà. Et après, tu vas beaucoup mieux dans ta vie de développeur. Tu vois, tu fais, ah, je suis pas tout seul. Cool.
Je suis pas tout seul.
Voilà.
Bon, bah écoute, tu m'as donné envie de le voir. Je vais de ce pas m'acheter un paquet de popcorn.
Cool.
Alors, il y a un article qui m'a beaucoup abusé, qui s'appelle Journée de travail ou journée au travail. Pareil, hein, on vous l'a mis dans les show notes. Et l'article est pas mal parce que ça part d'un autre article. L'article commence par citer un autre article qui dit que en moyenne un employé anglais travaille 2h53 par jour. Attendez le 29 mars, ils vont se mettre à bosser un peu plus.
c'est méchant. C'est
et donc c'est vrai qu'on connaît pas bien le personnage. Je sais pas si c'est un Scrum Master.
Je pense qu'il est tech lead.
Ouais,
je pense, je suis pas sûr.
Plutôt tech lead, hein. Et en fait, il gère une équipe qui fait du 9h 18h et qui a la même vélocité à chaque sprint depuis N sprint, l'équipe s'éclate, c'est la fête, mais ils bossent quand même 8 heures par jour. Et puis ils déménagent, ils vont dans d'autres locaux, un open space, ils sont tout seuls, ils ont une machine à café pour eux, ils installent un baby foot, une table de ping-pong, etc. Et là, ce qui est étonnant, c'est que les gens se mettent clairement à travailler moins, mais la vélocité est la même. Donc, comme ça commence à se voir que les mecs ils bossent pas trop, ils font du ping-pong, ils jouent, il se fait un peu tirer les oreilles par des chefs et des surchefs et des méta-chefs. Mais lui, en fait, il dit écoutez, voilà, la vélocité est la même, on fournit. Et on leur fiche un peu la paix, donc ils continuent avec ce rythme-là, donc clairement à bosser moins, hein, puisqu'ils parlent de 6h30 par jour au lieu de 8h. La vélocité reste la même, et puis à un moment donné, pas de bol, l'équipe redéménage, donc une année après, reviennent dans le gros open space avec toutes les autres équipes, les chefs qui regardent tout le monde et tout et tout. Et là, l'équipe se remet à bosser 8h par jour, au lieu de 6h30, et la vélocité reste la même. Donc c'est assez rigolo. Alors après, ils creusent pas trop, hein. Ils creusent pas trop des petites techniques et tout, mais c'est marrant de voir qu'effectivement, on n'est pas un métier, et là on rejoint peut-être le talk d'Arnaud. Est-ce qu'on est des artisans ou est-ce qu'on vient de l'industrie? Est-ce que notre métier se porte aux 9h-18h? Bon, moi, j'ai mon point de vue, je pense que vous avez le vôtre, et c'est certainement le même.
Parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, alors effectivement, ils ne rentrent pas dans les détails, mais je ne pense pas non plus que ce soit nécessaire, parce qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est qu'effectivement, la vélocité de l'équipe, elle ne bouge pas quand ils passent à 6h30. En revanche, l'ambiance, elle est largement meilleure.
Oui.
Les gens sont plus détendus, plus épanouis, plus investis aussi. C'est-à-dire que oui, ils travaillent 6h30, alors par contre, ils travaillent à fond. Et il fait cette remarque à la fin que je trouve hyper intéressante aussi. Il dit finalement, au-delà de 40 heures par semaine, on produit plus de bugs que de code utile. Ce qui est Oui. Probablement vrai, hein, parce que effectivement, je pense pas qu'on ait un métier qui soit fait pour se conformer à des horaires de production comme ça. Ça marche pas, quoi. C'est
Enfin, vous savez l'histoire de notre industrie, et c'est vrai qu'elle vient plutôt du monde du BTP, des cycles en V, des 9h-18h. On nous a jamais mis dans la catégorie artistique créa, hein. Donc c'est vrai qu'on est persuadé qu'on peut produire du code 8 heures par jour.
Mais bon, c'est qu'on est aussi souvent perçu comme ça. Enfin, on est souvent perçu comme des ouvriers en col bleu. Je veux dire, dans beaucoup de sociétés, le développeur, il est au bas de l'échelle.
Arrête, c'est plus comme avant. Audrey, attends, mais on passe à la télé maintenant. On a Mounir, il nous représente. Et toi, arrête.
Ouais.
On est devenus les superstars. Ouais, on gagne même des millions et des millions. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est des millions que je gagne.
Vas-y, redistribue.
Ah, je ne vous entends plus, ça a dû couper.
Je vais ouvrir un projet open collective, moi.
Bon, alors Audrey, là, on a la section sécurité. Alors, tout le monde... Enfin, la sécurité, c'est un sujet hyper relou, hein, que les choses soient claires. Personne n'aime parler de sécurité et surtout personne n'aime entendre la sécurité. Et là, Audrey, tu nous mets 4 articles.
Ouais, je me suis un peu lâchée, ouais. J'avoue.
Oh là là.
Mais oui, mais
est-ce
c'était
que
nécessaire.
Tu peux... Non, mais attends, mais... la sécurité, de toute façon, si mon code il est pas secure, c'est la faute de l'OS ou c'est la faute de Maven qui m'a tiré un truc avec une backdoor, mais c'est pas ma faute à moi.
Ouais, alors, c'est pas faux. Parce que, justement, le premier article, c'est un état de la sécurité de l'open source en 2019. Donc, c'est publié par SNCC, qui est une boîte anglaise qui est spécialisée, justement, dans la sécu, et notamment la sécu des projets open source. Et il y a quelques chiffres intéressants dans son étude, et notamment le fait que 78% des failles de sécurité sont dans les dépendances indirectes. Donc, je te l'accorde, ce n'est pas nécessairement ta faute.
Alors l'autre jour là, j'ai pushé du code sur GitHub, un petit truc avec de l'Angular, enfin un petit prout quoi. Et là GitHub me dit attention, vous avez tiré une dépendance avec une faille de sécurité. Bon, autant dire que comme c'est un petit Hello World prout, je m'en fiche. Mais je me suis dit tiens, c'est pas mal ça comme feature.
Ouais, c'est
je l'avais jamais vu avant.
Ouais, et c'est une feature qui est apparue au début de l'année, je crois. Et alors il y a plein de choses qui sont intéressantes dans cet état de la sécurité, notamment le fait qu'il faut en moyenne 2 ans entre la découverte d'une faille et son fixe, qu'il y a eu un gros bond là dans la découverte des failles de sécurité. Il y a eu plus 88% dans les applications en 2 ans. Le nombre de failles dans NPM en l'occurrence a augmenté de 47% et celui dans Maven Central est de 27%. Mais là, l'article se concentre sur les 10 images Docker les plus populaires et le fait qu'elles contiennent chacune au minimum 30 failles de sécu, ce qui est quand même assez énorme. Donc il y a Node, il y a Postgre, Nginx, HTTPD, Mongo, MySQL, Couchbase, Memcached, Redis et Ubuntu.
Ouais, et puis Node est tout en haut.
Voilà, hein. Node allez. Node est pris comme exemple pour le reste de l'article et c'est assez intéressant. Déjà, il faut savoir que 20% de ces images, elles pourraient être fixées juste en rebuildant l'image. Et 44% d'entre elles pourraient l'être en updatant l'image de base. Et donc, il parle justement de comment tu fais la différenciation de vulnérabilité sur un tag d'image. Donc, ils prennent l'exemple de la Node 10, qui est un alias vers une node 10.14.2-JSI, qui elle-même se base sur une version obsolète de Debian. Donc déjà, si c'est l'image sur laquelle vous avez basé votre Dockerfile, vous êtes juste exposé à 580 failles de librairie système. Ça part bien.
Pas mal.
Si vous avez choisi de prendre la 10-slim, c'est une image qui est un petit peu plus légère, qui ne va pas embarquer les dépendances inutiles comme le manpage et les choses comme ça, bon, là, vous passez à 71 failles.
Ah oui, en fait, c'est le man page qui est truffé de failles de vulnérabilité.
Tout un tas de librairies, en fait, tout un tas d'outils, voilà. Si tu pars sur la 10-alpine, là, on réduit vraiment significativement le risque. On ne l'efface pas complètement pour autant, mais on est déjà plus proche du zéro. Et donc là, ils expliquent la façon de fonctionner, justement, d'Alpine Linux concernant la gestion des failles, ce qui est aussi intéressant, parce qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle un security advisory program. En fait, s'il y a des failles dans une lib, Alpine Linux va créer une nouvelle version de l'image de base qui va directement inclure les fixes sur ces problèmes. Donc il n'y a pas de garantie que la version fixée d'une librairie sera disponible tout de suite, mais c'est quand même le cas la plupart du temps. Et c'est pourquoi, si vous pouvez monter votre version d'image Alpine Linux sans casser votre appli, si vous pouvez la monter de version, vous réduisez la surface d'attaque drastiquement. Parce que finalement, quand vous utilisez le tag de l'image node 2.10, en réalité, vous êtes sur la dernière version mineure, donc la dernière version patchée de la 10.x. Et donc, c'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un tag plutôt qu'une version spécifique. Et en conclusion, ils expliquaient, alors ils ne détaillaient pas plus que ça, il faut aller voir après dans le document qui est attaché, mais alors le nombre de failles dans les Lib System a fait un x4 entre 2017 et 2018, et donc ça affecte de facto les distributions les plus populaires que sont RHEL, Debian et Ubuntu. Voilà.
Alors moi je voulais revenir, si je peux, sur les failles de sécurité dans les dépendances transitives. J'ai une petite info là-dessus, parce que l'Europe travaille sur le sujet, notamment à travers un projet de recherche européen qui s'appelle FASTEN, F-A-S-T-E-N, et qui participe à ce projet. C'est un projet sur 3 ans, et effectivement, il part de ce constat-là. Et l'idée de ce projet, c'est de dire qu'aujourd'hui, nos repositories d'artefacts considèrent les artefacts comme des binaires, en fait, comme des boîtes noires. Et donc, il permet de retourner que la dépendance de telle version, etc. Et qui ne voit rien à l'intérieur. Et donc, ce projet a pour ambition de parser complètement et d'aller voir en boîte blanche, en fait, à l'intérieur de tous les artefacts pour te fournir une granularité très fine d'analyse de tes artefacts. Et une des applications principales de ce projet-là, c'est pour la sécurité, c'est pour être capable de dire, voilà, cette dépendance que tu utilises, transitive, à telle ligne, elle appelle une méthode qui a un problème de sécurité. Parce que le souci dans tous les rapports qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils disent, il y a un problème de sécurité dans telle librairie, mais tu n'as absolument aucune garantie de quoi tu utilises cette faille de sécurité. Tu peux utiliser plein de parties de la librairie. En général, vous savez très bien qu'on utilise que, je ne sais pas, 1%, même pas des fonctionnalités des librairies. Donc, c'est pas pour autant que tu as un problème de sécurité. Et donc là, ça permet d'aller beaucoup plus loin, ce projet. Et donc, c'est un projet sur 3 ans. Et dont l'objectif est de fournir un truc très détaillé sur ces problèmes de sécurité. Donc, on verra dans 3 ans. En tout cas, il y a du travail là-dessus. Et ce sera sûrement super intéressant au vu de l'ampleur des...
Ouais, je pense, ouais.
Ouais, pas mal, pas mal.
Et donc ensuite, j'avais mis trois articles, alors qu'ils sont sur des failles différentes chacune. Le premier, c'est il y a des versions de Spring Security Auth 2.3.5, 2.2.4, 2.1.4 et 2.0.17 qui viennent d'être released et qui corrigent toutes la faille intitulée de son petit nom CVE 2019-3778. En fait, c'est une faille qui va permettre une redirection à partir de l'URL d'OTAN. Donc, bon, on va dire qu'il est fortement recommandé aux utilisateurs de Spring Boot 1.5 et de Spring IO Platform Kero d'override la version de Spring Security Auth. Il y a eu aussi une faille de sécurité qui a été découverte dans l'API serveur de Kubernetes, qui, c'est assez rigolo, ça permet à un utilisateur authentifié qui a les droits d'écriture sur l'API de faire exploser la console de ressources de l'API en envoyant juste une requête de type JSON patch, et du coup il y a un déni de service sur l'API serveur. Et
pas mal.
Quand on connaît l'architecture de Kubernetes en mode de fonctionnement, c'est un petit peu embêtant. Donc si vous êtes concerné, eh ben, il vaut mieux faire une upgrade du Kube API serveur. Et la dernière, c'est une faille qui là concerne quasi tout le monde, hein, je pense, puisque c'est une faille de sécu qui a été identifiée dans RunC. Et RunC, c'est un outil low level, c'est vraiment très très bas niveau. C'est un outil qui a en charge de ce qu'on appelle spawner. J'ai pas vraiment trouvé de terme français élégant à part pondre les containers Linux.
T'inquiète, spawner, c'est très très bien.
Voilà, donc il spawn les containers Linux, ce qui fait que RunC est utilisé par beaucoup beaucoup d'autres outils, Docker, ContainerD, etc., qui reposent dessus. Et donc, déjà, toutes les installations Kubernetes sont concernées. Hein. Alors, tous les détails ne sont pas connus pour le moment, mais il y a la faille identifiée, c'est qu'un process qui tourne en route, il va pouvoir, en utilisant la faille, gagner les accès route sur le host. Et du coup, c'est accès illimité au serveur, accès illimité à tous les containers déployés dessus, c'est open bar, champagne, la fête, tout ça. Donc, y a plusieurs précautions à prendre. La première serait évidemment de s'assurer que vos conteneurs ne tournent pas en route. Hein. Soit ils sont dans le security context des specs de votre pod, ou alors ils sont dans. Vous définissez ces autorisations dans un pod security policy, mais vous évitez de laisser ça open bar. Évidemment, c'est mieux si vous pouvez vous assurer que les conteneurs que vous utilisez sont vérifiés et certifiés, mais le top du top, ce serait plutôt de mettre à jour RunC. Et il y a d'ailleurs des instructions spécifiques si vous êtes sur GKE, EKS, EKS c'est Amazon, et AKS qui est Azure Kubernetes System. Et a priori, Docker pour Mac et Docker pour Windows sont impactés aussi.
Bon, bah c'était la partie sécurité, j'avais raison, c'est toujours aussi relou la sécurité.
Je te remercie, enfin, je savais que t'allais apprécier.
Mais moi, le code que je fais, il est top secure. Hein, ça,
oui, mais tu vois, c'est intéressant parce que justement, on en parlait déjà au CERN il y a 2 ans. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu un panel sur la sécurité, etc. Et sur le fait que le mouvement DevOps, c'est bien, mais en fait, ça ne va pas assez loin. Et en vrai, ça devrait être le mouvement Security DevOps.
Ouais.
Parce que c'est aujourd'hui le parent pauvre et que ça ne devrait pas.
Oui, ça porte même un terme, et on a déjà pas mal parlé sur les cascodeurs. Le dev, alors moi je vois DevSec.
Oui, c'est ça. Voilà.
DevOpsSec ou DevSecOps. Je sais jamais dans quel, parce qu'il y a les Français qui disent plutôt DevSecOps et les Anglais qui disent plutôt DevOpsSec. Mais OpsSec en français c'est un peu bon. Bref, c'est sûr qu'il faudrait mettre aussi les gars de la Sécu autour de la table, mettre les devs et les ops, c'est pas mal, clairement.
Mais c'est pas assez.
La sécurité, comme tu dis, c'est un peu le parent pauvre, ils sont jamais autour de la table. Ouais.
C'est pour ça, tu vois, je parle d'eux, parce que c'est important de
mais
parler
d'eux. Bien raison, t'as bien raison, et là je vous propose de parler de la société qu'on est un peu responsable. Hein. Il faut dire, enfin moi je suis très la responsabilité du développeur et de la développeuse, bien sûr. Parce que nos lignes de code sont partout et elles vont l'être de plus en plus et c'est un peu en train de partir en cacahuète. Donc là on parle, enfin vous avez certainement entendu parler de la ligue du LOL, etc. On parle de haine sur les réseaux sociaux, ça augmente. On est en train de remettre en cause la partie anonymat. Est-ce qu'on doit être anonyme sur les réseaux sociaux? Donc c'est assez compliqué. Il n'y a pas vraiment de réponse encore. Hein. Vous pensez bien entre ceux qui veulent tout contrôler. Si on n'est pas du tout anonyme, alors on pourra montrer du doigt la personne qui fait de la haine sur les réseaux sociaux. Mais si on n'est plus anonyme, alors on perd la liberté d'expression, etc., etc. Enfin, c'est un sujet hyper complexe. En plus, pas de bol, tout ça, c'est sur Internet. Donc, qu'est-ce que la loi française peut faire sur une boîte américaine avec des serveurs hébergés au fin fond de l'île de Jersey? Voilà, donc je pense qu'il y a tout un avenir à créer. Et là, il y a de plus en plus de pistes. Il y a l'Europe aussi qui se met dedans. Bref, il y a pas mal de choses. Je pense même que ça mérite un café Philox, ça, tiens.
Je l'avais pas vu arriver, celle-là.
Ouais. Alors la ligue des ordures, hein, après la ligue.
Ouais. En fait, j'ai
la ligue du LOL. On parle de la ligue des ordures. J'ai trouvé ça très très beau.
Pour traiter le sujet, j'ai pris 3 articles que j'ai trouvé vraiment intéressants. Le premier, donc la ligue des ordures vient de sortir et ce n'est pas le nouveau Marvel. Eh ben, c'est le retour d'expérience de quelqu'un qui n'est pas une femme, qui a été victime de la ligue du LOL et qu'on connaît vachement bien parce qu'il s'agit de Corben. Et je trouvais ça intéressant parce que bon, je pense que la couverture médiatique, en tout cas pour les gens qui prêtent attention à ce genre de sujet, a été suffisante pour qu'on revienne pas sur la ligue du LOL, mais je trouvais important de montrer que même quelqu'un comme Corben, enfin je veux dire,
ouais,
pour beaucoup
ouais.
d'entre nous, ce mec c'est juste une figure. Moi mon rêve c'est de le rencontrer en vrai, tu vois. C'est... Et
on va l'inviter, tiens.
Oh ouais, vas-y, on fait ça.
C'est ça qu'il faut faire. Ah punaise, je le note.
Et lui aussi, il a été victime de la ligue du LOL. Et il explique justement les effets que ça a eu sur lui. La perte de confiance, l'impression, et je le cite, d'être une sous-merde, une grosse déprime, etc. Donc je trouvais que c'était intéressant de mettre ce témoignage en avant parce que effectivement, c'est important d'avoir conscience de ce qui a été du harcèlement qu'ont subi beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup d'homosexuels, etc. Mais je pense que de manière générale, de toute façon, si on rentrait pas dans les cases de ces personnes-là, en étant un certain type de mâle blanc, je pense, eh ben, on y avait le droit quand même, quoi. Et a priori, Corben a dû prendre pour la partie geek des stéréotypes qui ne rentraient pas. Voilà.
Voilà, et puis effectivement, l'autre article aussi du Monde qui est pas mal.
Que j'ai trouvé très très bien fichu sur l'anonymat et le pseudonymat en trois questions. Alors ce qui se passe, c'est que il y a eu des déclarations à la fois de députés La République En Marche et du président de la République qui vont dans le sens de « je ne veux plus d'anonymat en ligne ». Alors le président de la République, lui, s'est exprimé dans le cadre d'une réponse au harcèlement scolaire, parce que le problème du harcèlement scolaire, c'est qu'évidemment, avec l'apparition des nouvelles technologies, il est plus limité à la cour d'école. Hein. Il s'est répandu sur les réseaux sociaux, ça fait des drames, puisqu'il y a des suicides d'enfants. Et donc, l'anonymat est souvent tenu pour responsable de toutes les dérives du web, alors que finalement, quand on reprend les choses à plat, il est très relatif. C'est-à-dire qu'il y a déjà certaines plateformes qui, de toute façon, privilégient l'identité réelle. C'est le cas de Twitter, puisqu'on peut identifier des comptes. C'est le cas de Facebook, ce qui n'est sûrement pas beaucoup su, mais qui peut procéder à des contrôles d'identité, même si c'est fait très rarement. Mais en principe, Facebook vous demande d'avoir une véritable identité, d'utiliser une véritable identité sur son réseau. C'est le cas de LinkedIn, c'est le cas de Viadeo, etc. Et finalement, l'anonymat, c'est très, très, très marginal. C'est 4chan et les clones du genre. Et de toute façon, l'anonymat n'est pas complet puisqu'on connaît l'IP de la machine. Donc au final, le pseudonymat, c'est le régime le plus répandu. Et en plus, c'est intéressant parce qu'ils expliquaient dans l'article que c'est quelque chose qui est utilisé dans la vie réelle depuis longtemps. Pelé, Hergé, Johnny Hallyday, voilà. Et ça permet d'identifier la personne sans donner d'informations civiles sur elle, mais en ayant quand même accès à de véritables informations comme un numéro de téléphone, par exemple. Et la deuxième question, c'est est-ce que l'anonymat protège vraiment les auteurs de harcèlement ? Alors déjà, les études sociologiques, elles, ont montré que les internautes les plus agressifs agissent sous leur véritable identité. Ils n'ont pas besoin de se cacher derrière l'anonymat pour ça.
Oui, ouais, c'est clair.
Que si on prend le cas de la Ligue du LOL, tous les harceleurs étaient identifiables par leur nom. Il y en a très peu qui étaient sous des pseudos, hein. La plupart étaient sous leur nom. Et que finalement, le problème, c'est pas tant le pseudonymat, c'est plutôt l'impunité qui, par exemple, a longtemps sévi sur Twitter. Et le fait que alors par contre voilà, un vrai progrès qu'il y a eu, c'est que le cyberharcèlement, lui, en groupe, il est reconnu par la loi depuis juillet 2018. Donc ça arrive tardivement, mais les effets sont déjà fait sentir puisqu'il y a déjà eu des procès de harceleurs. Et donc se pose la question de la limite à la suppression de l'anonymat. Et dans le cas du harcèlement, finalement, le pseudonymat, il est essentiel non pas pour protéger les agresseurs, mais plutôt pour protéger les victimes. Et la levée de l'anonymat, ça permettrait juste de harceler plus précisément les personnes cibles. Donc ça serait encore plus dangereux pour eux. Ça permettrait évidemment d'autres dérives telles que le fichage des citoyens, comme c'est en train de se faire en Chine, hein, avec toutes les dérives antidémocratiques qu'on peut imaginer. Oui. Et puis, ça peut créer des cas d'autocensure, parce qu'en fait, on le sait, quand notre vie privée est exposée, on va avoir tendance à s'autocensurer, à essayer de rentrer dans la masse. De peur de subir des représailles. Donc.
Et puis, comme tu dis, de toute façon, les malades mentaux qui ne se gênent absolument pas pour avoir des discours haineux, eux, ils s'arrêteront pas. Donc nous, on s'arrêtera parce que on va dire oh là là, j'ai pas le droit de dire ça, j'ai pas le droit de dire ça. Donc, mais de toute façon, les haineux, les vrais, seront toujours là, anonymes ou pas.
Voilà. Et donc, conclusion, l'anonymat, c'est une condition juste indispensable de l'expression démocratique dans tout un tas de situations, les lanceurs d'alerte, les dissidents de régimes autocratiques, etc.
Yes.
Et donc après, je vous ai mis le plan d'action contre les contenus haineux en ligne, qui a été effectivement publié par Mounir Majoubi, qui est donc secrétaire d'État au numérique, qui revient sur tout un tas de... Alors, moi, je l'ai trouvé très bullshit, cet article, hein, je vais être honnête. Voilà, il fait tout un tas de belles déclarations, il n'y a pas vraiment de plan d'action proposé derrière, ça se repousse beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les plateformes. Et alors en plus, moi je trouve ça formidable, c'est publié sur Medium. Donc on a un communiqué du secrétaire d'État au numérique qui est publié sur un outil qui n'est pas hébergé en France et dont la viabilité dans le temps n'est pas certaine. Bon, ça pose beaucoup de questions, je trouve.
Ouais. On en parlait au dernier épisode. Hein. Tiens, il faudra qu'un jour je vous retrouve ça, parce que j'en parle beaucoup, mais il faut que je vous donne les références. Il y a un super talk TED là sur un mec de la Commission européenne qui parle justement de ça. L'Europe a que dalle. C'est complètement fou, quoi. Comme tu dis, on a un ministre. Enfin, Mounir n'est pas
secrétaire
ministre,
d'État,
le secrétaire d'État qui va sur Medium, quoi. Et puis un président qui tweet sur Twitter, et puis enfin voilà, et c'est normal. Enfin, ce qui est complètement dingue, c'est que comme l'Europe a strictement rien, bah on est content, on est satisfait, on se dit bah oui, pas de problème, notre président tweet sur Twitter et Mounir publie sur Medium et ça gêne plus personne.
Ouais, c'est pas que on n'a pas, hein. Et même quand on a, on n'utilise pas. Par exemple, Google Docs est utilisé partout dans l'éducation, etc. Alors que il y a des alternatives comme Clickfait, par exemple, en français.
Complètement. Mais en plus, c'est bien parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant, puisqu'on vous en avait parlé dans les précédents épisodes, mais il y a la fameuse directive droit d'auteur qui vient d'être finalisée, et comme le dit aussi bien Numérama, c'est peut-être le moment de paniquer. Donc au dernier épisode news, on vous expliquait que en fait, le Parlement, le Conseil des États membres et la Commission européenne devaient se mettre d'accord dans le cadre d'un trilogue sur la version finale du projet. Ils se sont mis d'accord le 13 février. Et il y a peu de changements par rapport à ce qu'on vous a expliqué avant, si ce n'est que maintenant le fameux article 11, le link tax, il ne s'applique plus qu'aux moteurs de recherche et aux agrégateurs de contenu d'actualité. Il n'y aura aucune exception de fait pour les particuliers, les associations, etc. Et utiliser plus que de très courts extraits d'articles de presse nécessiterait une négociation en amont. Voilà, c'est débile, parce que je ne sais pas si vous imaginez un moteur de recherche qui n'affichera aucune information à propos du lien qu'il est en train de vous présenter. Je ne vois pas comment on va faire, mais okay.
Ça va être super utile.
Ah, mais ça va être très pertinent. Et puis, le upload filter, il maintient que tous les sites et toutes les apps, toutes les applications devraient être en mesure de prouver qu'ils ont fait de leur mieux pour empêcher une violation de copyright dans le contenu uploadé sur la plateforme. Sauf quelques très 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 rares exceptions. Vous pouvez revenir à l'épisode 204 pour voir, on en avait parlé, les plateformes qui échapperaient à ces critères. C'est vraiment rien du tout, parce qu'il faut, répondre à trois critères qui vont être compliqués à rassembler. Alors les textes peuvent encore être invalidés, mais pour ça il faudrait qu'il y ait un vote du Parlement européen ou du Conseil des États membres qui aille contre. Et ça paraît plus compliqué, puisque le Parlement, qui avait d'abord voté contre, a ensuite voté pour. Le vote devrait avoir lieu incessamment sous peu, et il y a d'ailleurs un mouvement, il y a des députés qui ont proposé d'avancer le vote pour que ça soit fait avant les protestations, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations qui étaient prévues. Du coup, ils ont déplacé le vote avant, comme ça, ni vu ni connu. Voilà.
Bon, y a un avenir à créer, quand même. Hein. Allez. On se motive, on se bouge.
Il y a Facebook. Encore.
Oui, voilà, au dernier épisode, on vous avait parlé de Facebook qui avait commencé à merger les données Facebook et WhatsApp. Et quand même, l'Allemagne a dit non, t'as pas le droit chez nous.
Voilà, donc c'est l'équivalent allemand de l'autorité de la
WhatsApp
concurrence.
WhatsApp et Instagram, pardon.
Alors en fait, là, l'autorité de la concurrence, elle leur a demandé d'arrêter de combiner les données des utilisateurs qui proviennent de différentes sources sans le consentement des 10 utilisateurs. Donc ça concerne à la fois les plateformes qui sont dont Facebook est propriétaire, hein, WhatsApp, Instagram, etc. Mais ça concerne aussi les données qui sont envoyées par des applications tierces. Et ça, il y en a un paquet, mais vraiment beaucoup.
Ouais.
Et donc, ils ont un mois pour faire appel de la décision, mais si l'appel échoue, derrière, ils auront 4 mois pour prouver que les sources de données ne sont pas combinées sans consentement. Donc, l'axe de défense de Facebook était de dire que cette partie des contrôles ne tombe pas, n'est pas sous du ressort de la contrôle de l'autorité de la concurrence allemand, ce à quoi ils leur ont gentiment répondu que entre le nombre de raisons qu'ils contrôlent et la position dominante sur le marché, il y a quand même un petit peu situation de monopole, donc si, c'est bien eux que ça concerne. Voilà. Et effectivement, c'est le FCO, qui explique que bah, vu la situation de quasi-monopole, les utilisateurs sont quasiment forcés de voir leurs données collectées par Facebook, à moins de restreindre leur utilisation des réseaux sociaux très fortement. Et encore, ça ne résout même pas le problème, puisqu'il y a cette fameuse, il y a cette fameuse problématique des profils shadow, c'est-à-dire que moi qui n'ai pas de profil Facebook, parce que je déteste ça et je vomis dessus depuis 10 ans, et bah, j'en ai quand même un qui s'appelle un profil shadow, et dans lequel...
Ah bon ?
Mais ouais. Ah, mais c'est connu depuis super longtemps.
J'en aurais un aussi,
alors. Bah oui, parce que toi comme moi, on est probablement dans le téléphone de personnes qui ont un compte Facebook. Et donc, rien que par l'application Android,
incroyable,
ils récupèrent
arrête.
Des informations. Mais ouais. Et d'autres applications, alors là, récemment, c'est Stéphane Bortzmeyer sur Twitter qui a un peu balancé sur Trendline, parce que Trendline utilise un outil Facebook qui donc collecte des données et qui les envoie très probablement à Facebook. Et ça vient alimenter ce profil shadow, ce qui fait que toi comme moi, même sans être dessus, bah, on a quand même un profil, on est quand même fiché par Facebook. Voilà, donc
C'est balèze, ça.
Bah, il faut espérer que ça va donner l'idée à d'autres instances européennes en fait de saisir du sujet et de mettre le holà là-dessus.
Est-ce que Macron et Mounir ont des comptes Facebook?
Je ne préfère pas savoir.
Je préfère pas savoir.
Passons aux outils de l'épisode, vite.
Allez, on passe aux outils de l'épisode. Mais attends, mais j'y crois pas, hypertexte, non mais Audrey, tu nous mets...
Ah, je suis rétro
outil,
cette
des
semaine.
Années 90,
ouais, je suis rétro. En fait, c'est les 30 ans du web, mardi prochain. Et donc, il y a un groupe de devs et de designers du CERN qui ont reconstruit l'application World Wide Web qui avait été développée sur une machine Next en décembre 90.
Oh
c'est
là
beau, hein
là. Ah, ils ont développé sur Next. Ah, oh, punaise, la petite larme.
Voilà, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemblait, bah, vous pouvez aller jouer avec ça.
Attends, mais on aurait dû sortir Lynx. Est-ce que Lynx est encore... Attendez. Est-ce que Lynx est encore maintenu? Ouais, je crois, hein.
Ah, j'en ai aucune idée.
Bon, ben, je suis sûr
attendez,
que si.
Browser, Lynx. Mais ouais, Lynx Browser. Ah, punaise, ah, j'ai envie de pleurer. Mais voilà, on va... L'outil du casse-codeur 2006, c'est Hypertext et Lynx, voilà. Et bim.
Et pour, la, beau, pour la petite histoire, on s'embête dans l'expliquer à maintenir des navigateurs qui supportent pas le JavaScript pour toutes les fonctionnalités de base de l'expliquer. Notamment pour les navigateurs de Lynx et autres.
C'est bon, non, c'est du dévouement,
faire,
hein.
Faire du wiki avec Lynx, c'est assez balèze.
Ouais. Et voilà. Et alors le deuxième outil, c'est pas réellement un outil, mais j'ai trouvé ça. Enfin, c'était assez intéressant. Ça nous a pas mal occupé sur Twitter. C'est un test du syndrome de l'imposteur.
Ah oui, je l'ai pas fait parce qu'il était long, mais oui, ça. A
oh
pas
oui,
mal,
il est pas
ça
si long
pas
que ça,
buzzé,
mais
ouais.
Il est très révélateur. C'est intéressant. Je vous laisse
oui,
aller
donc
voir.
Donc il faut répondre à 40 questions. Ah non, va 20 questions, pardon. Et à la fin, on vous dit si vous êtes un imposteur ou pas.
Non, ça te donne la hauteur de ton niveau, de la force de ton syndrome, disons, de l'imposteur.
Ouais, ouais. Ouais. Ton imposturabilité, je sais pas si ça se dit, mais
pas,
à partir
mais
du
voilà.
moment, on va le dire.
Je trouvais ça rigolo, donc je vous l'ai mis. Voilà.
Alors, la rubrique débutant, moi, je suis super fan de. Je suis super fan de Julia Evans.
Ouais.
Et c'est vrai qu'elle a donc là elle ah tu peux même avoir un PDF tiens j'avais pas vu donc on va vous envoyer le lien c'est Every Linux Network Tool I Know donc voilà elle fait des petits graphes toujours très très beaux super sympa et donc elle vous parle de ping de curl de wget mais tout ça avec son formalisme à elle qui est plutôt pas mal et je viens de voir qu'en plus on peut même exporter ce joli dessin en PDF donc je vais m'imprimer ça de ce pas ça sera mon cheat
voilà
cheat bon et ben on a presque terminé je vous propose de comme à chaque fois parler des mille et une conférences du monde IT alors qu'est-ce qu'on a ben on a le Brescamp bientôt du 20 au 22 mars. Je vais pas pouvoir y aller, moi. Et vous, vous y allez?
Moi, j'y serai, ouais. Avec Guillaume.
Oh là là.
J'emmène mon vieux développeur préféré avec moi. Ou il m'emmène avec lui, je ne sais pas.
Le barbu.
Ouais.
J'y serai pas cette année, mais j'aime beaucoup cette conférence. On y mange très bien.
Ouais.
Pourquoi tu crois qu'on y va?
Très bon buffet.
Parce qu'on mange des crêpes.
Bah ouais.
Alors après, il y a, alors pareil, hein, au mois de mars, un peu plus loin et un peu plus au soleil, enfin remarquez, plus au soleil que Rennes, c'est assez facile. C'est Gritch. qui a lieu à Madrid. Et donc là, on est sur Android, JVM, langage, puisqu'il y a du Kotlin, du Groovy, du Grails. Je sais pas si c'est en espagnol, si c'est en anglais, s'il y a un peu des deux, puisque je vois des speakers espagnols, mais des speakers aussi anglais. Je sais pas si,
C'est Guillaume Dafanche qui connaît mieux cette conf que nous, je pense. Donc, je crois que c'est lui qui l'avait mise.
Bon, après il y a l'unique, le seul Devox France, hein, ça on est bien d'accord. Du 19 avril. Oh là là, je suis fatigué.
Te ramène pas le 19, Antonio, ça va mal se faire.
Non, je me ramènerai pas. Ah bon, c'est terminé.
Ah bah vous avez tout fait.
Et puis
ah
bon,
bah, merci.
C'est archi plein, donc ça sert à rien d'essayer de voilà. Vous pouvez éventuellement, vous pouvez aller sur le marché noir acheter votre place à 5000 balles, mais c'est terminé. Il y a le Vox CERN le 1er mai. Dommage, je pourrais pas y aller cette année. Je pense que ils font ça tous les deux ans parce que c'est là où ils arrêtent le LHC. Donc je crois qu'encore cette année, on pourra aller. Enfin, les speakers plus une poignée d'élus pourront aller rendre visite au LHC. Un truc à faire une fois dans sa vie. Le Riviera Dev au mois de mai. 15, 16 et 17 mai à Nice, donc pareil, un peu plus chaud que Karen. Endcraft les 16 et 17 mai, Endcraft qui a lieu à Paris.
Exactement, en anglais, tout en anglais.
En anglais. Nos amis de Mixit le 23 et 24 mai à Lyon. Nos amis du Best of Web, moi j'aime beaucoup le Best of Web, le 6 et 7 juin à Paris.
Et on y mange bien. Donc, aussi au Best of Web.
On y mange bien. Et c'est spécial web.
Ah, c'est super sympa.
Ouais. Vous avez ensuite le DevFest Lille au mois de juin.
Et le CFP est ouvert jusqu'à la fin du mois. Donc foncez.
Oui, c'est vrai.
Foncez.
Ouais, c'est vrai. Vox Day Luxembourg le 20 et 21 juin. Je ne sais pas pourquoi ils font ça le jour de la fête de la musique. J'irai jamais le 21 juin, quoi. J'ai pas quitté Paris, la fête de la musique à Paris, pour aller au Luxembourg, quoi. Bon, voilà. Donc, si vous aimez pas la musique, allez au Luxembourg. C'est un Vox Day assez sympa. Et puis, un peu plus ensoleillé que Rennes, il y a le Sunny Tech IO qui a lieu à Montpellier les 27 et 28 juin. J'y suis jamais allé, mais j'ai entendu des supers échos.
La première édition a été un grand succès apparemment. Donc, voilà. Allez-y.
Voilà. Donc, continuez à taper du code avec votre casque, isolez-vous, tapez du code, etc. Mais n'oubliez pas, il y a plein de conférences où on peut aller voir des êtres humains, bien sûr, assister à des confs techniques, mais comme elles sont toutes à peu près filmées, c'est en fait, on n'y va pas que pour ça. On y va surtout pour enlever son casque et discuter avec des êtres humains. C'est un côté assez sympa de notre métier. Bon.
Et ben voilà.
D'autres choses à dire ?
Ah non, je crois que t'as tout bien résumé là.
Bon, on attend le retour d'Emmanuel pour Quarkus.
C'est ça.
Emmanuel, si tu nous entends, à bientôt. Et puis à vous toutes et à tous, à bientôt aussi.
À très vite.
À bientôt.
Salut.
Bisous tout le monde.
Ciao.
Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.